finiscono lì. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Voilà ce qu'on vient de lire dans ce chapitre 15. Je remets en place pour qu'on puisse se voir un peu. On va bien y arriver, hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, cette lecture, nous allons d'abord voir un résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière. Hein? Et la semaine dernière, on a vu que l'homme naturel n'a pas de lien, il n'est pas lié à Dieu. C'est quoi l'homme naturel? On l'a vu au verset 50, la chair et le sang ne peuvent pas hériter hein, du royaume de Dieu. Alors, l'homme naturel, il n'étant pas lié à Dieu, il doit vivre une naissance spirituelle. Nous sommes nés physiquement par notre mère, mais pour entrer dans le royaume, il faut naître de nouveau. On a vu aussi que l'homme né de nouveau, il reçoit un esprit nouveau. Vous savez que tous les hommes, ils ont un esprit, mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Donc, celui qui est né de Dieu, il reçoit un nouvel esprit. Et cet esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit à toutes choses. À sa mort, à la mort de l'homme, l'esprit, il retourne à Dieu. Hein? Il est clairement, on l'a vu, hein? Va auprès de Dieu. Mais le corps, il pourrit dans la tombe. Hein? Le corps, il pourrit dans la tombe. L'esprit va à Dieu et le corps pourrit dans la tombe. Hein? Lorsque Christ reviendra, il va recréer le corps qu'il est pourri et il va créer un corps glorifié. Ça, c'est encore quelque chose qu'il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à concevoir. C'est-à-dire que ce corps qui pourrit dans les tombeaux, Jésus-Christ, il va le ressusciter à sa venue et il va lui donner un corps glorifié comme le sien. Et on va s'unir à Jésus-Christ et on va bénéficier éternellement de la joie du Seigneur. Parce que nous serons avec lui éternellement. Terminer la séparation. S'il vit lorsque Christ, Il y a l'enlèvement de l'Église. Si ceux qui vivent pendant que Christ il revient, ils ne mourront pas. Vous savez qu'il y a ce verset dans le dans l'Épître aux Hébreux qui nous est dit, il est réservé à tous de mourir une fois. Donc, tous, ils doivent mourir. Mais, lorsque Christ, il va revenir pour prendre son Église, automatiquement, il y a des chrétiens qui sont morts et il y en a d'autres qui sont vivants. Donc, ceux qui sont morts, ils vont être ressuscités et transformés. Ceux qui sont vivants, ils ne mourront pas. C'est-à-dire qu'à Dieu, tout est possible. C'est-à-dire qu'ils vont passer d'un état à un autre. Automatiquement, ils seront changés. Et ensemble, avec ceux qui sont sur la terre, dans la terre, et ceux qui sont vivants, ensemble, nous allons rejoindre notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelqu'un, je vous l'ai déjà dit, quelqu'un, il a demandé, mais pourquoi les morts, ils vont ressusciter avant? C'est une boutade, hein, que je vous dis, hein. Mais quelqu'un a répondu, il a dit, mais ils sortent avant parce qu'ils sont dans la terre, tandis que les vivants, ils sont sur la terre. Donc, le temps qu'ils sortent de la terre, et tous ensemble, nous serons enlevés. Encore une fois, ce n'est pas biblique, hein, mais tout ça, c'est pour expliquer, hein, cette grande puissance de Dieu qui va ressusciter les morts et qui va transformer les vivants. Et tous ensemble, nous serons enlevés dans les cieux et ils nous seront dans la gloire. Il y a des questions que nous avons posées la semaine dernière et on continue aujourd'hui. Quand est-ce que Christ reviendra? Voilà, ça c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens, ils se posent. Hein? Et pourquoi? Parce que on a vu la semaine dernière que c'est une nécessité d'être transformé. On a vu ce mot la semaine dernière, la métamorphose, hein? C'est un mot un peu métamorphose. C'est un peu comme on a dit la semaine dernière, c'est les papillons. Vous savez, les papillons, comment on appelle les papillons là? Je m'en souviens plus. Avant de mourir, je m'en souviens plus. Ils meurent. Ah bon? Je m'en souviens plus. Vous connaissez, hein? Voilà. Alors, ils meurent et automatiquement leur enveloppe il s'ouvre et il ressort un beau papillon avec plein de belles couleurs et c'est exactement ce qui va nous arriver.
La chenille,
voilà, merci frère. Voilà, c'est la chenille. La chenille, vous voyez, la chenille, c'est quelque chose même qui n'est pas beau à voir. Hein? Hein? Donc, il meurt, et lorsqu'il meurt, son corps, il s'ouvre et il sort à ce pavillon plein de différentes couleurs merveilleuses. Et nous, c'est exactement pareil. Lorsque nous ressusciterons, lorsque nous serons transformés à la gloire de Jésus-Christ. Nous serons tel qu'il est, comme nous dit Jean, nous le verrons tel qu'il est, tel qu'il est. Voilà pourquoi, alors, ceux qui ne sont pas ressuscités, parce que tous ne sont pas ressuscités, qui c'est qui ne ressuscite pas? C'est ceux qui n'ont pas suivi la vérité. Et donc, ces gens-là, ils n'hériteront pas le royaume. Alors, regardons maintenant quand cela va se produire, hein, cette résurrection. Le moment de la résurrection, on l'a dans les versets 51 et 52. Il dit, voici que je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changé. Voilà, Paul ici, il nous révèle le mystère. On a vu ça encore la semaine dernière. Le mystère, c'est quoi? C'est quelque chose qu'il était tenu secret. Mais Paul dit, je vous révèle le mystère. Donc, il n'est plus secret, parce que Paul, il le révèle. Et il nous le dit. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. La Bible, encore une fois, il dit à tous réservé de mourir une fois. Mais Paul, il nous dit, je vous révèle un mystère, quelque chose qui n'est jamais arrivé. Nous ne mourrons pas tous. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, le Seigneur, il va intervenir et il va transformer les vivants avec un corps glorieux, que ça va être l'équivalent d'une résurrection, hein, parce que le corps mortel, il va se transformer en corps immortel et il revêtira l'immortalité. Lorsque, comme je dis, c'est quelque chose de révélé, ce n'est plus un mystère. Un autre mystère que Paul a révélé, c'est le mystère de l'Église. Avant cette Église, avant Jésus-Christ, l'Église n'existait pas. Jésus, d'ailleurs, il a dit, « Je bâtirai mon Église ». Voilà pourquoi c'est à Paul d'expliquer qu'est-ce que c'est cette Église. Et c'est quoi l'Église? C'est le rassemblement de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ en tant que leur Seigneur et Sauveur et qui se réunissent en son nom et ensemble, ils glorifient Dieu. C'est l'ensemble de tous ceux qui ont été rachetés dans le sang de Christ. Et Paul, il nous dit quelque chose de plus en nous disant que nous sommes unis. Il nous est dit aussi, il nous dit que dans les saluts, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni blanc, ni noir, ni jaune. On est tous dans le salut de Dieu. C'est ça le mystère. Et il nous dit que cette Église, il sera enlevé. D'ailleurs, la dernière promesse du Seigneur, c'est « Je veux revenir bientôt » dans Apocalypse. Et c'est l'Église tout entière qui répète « Maranatha, Seigneur, oui, viens bientôt ». Et ici, et Paul, il révèle une partie, pas entièrement, parce que les Corinthiens, ça a été une des premières épîtres qu'il a écrit. Ensuite, c'est dans les lettres aux Éphésiens qu'il nous révèle tout ce mystère-là. Hein. Mais ici, il nous révèle une partie. Et donc, quand Christ reviendra-t-il? Bon, le retour de Christ, on sait qu'il peut se produire à tout moment. À tout moment. Il n'y a pas de... Le Seigneur, il a dit, je reviens. Il n'a pas donné des dates, mais à tout moment, il peut se produire ce retour. Voilà pourquoi dans la Bible, c'est répété constamment, réveillez-vous, soyez prêts. Pourquoi? Parce que Jésus, il va venir comme un voleur. Et vous savez, hein, comme dit, si on savait quand les voleurs venaient à la maison, nous saurions bien l'attendre. Quoique la loi, hein, si vous accueillez les voleurs, hein, pas dans la loi, il vous condamne. Hein. Mais voilà, c'est pour savoir hein, quand la chose il va arriver. Et Jésus, il nous dit, il va venir comme un voleur. Personne ne le sait. On lui a demandé à Jésus, quand est-ce que toutes ces choses vont arriver? Quand c'est que tu vas établir les royaumes? Et il a dit lui-même, personne ne le sait, sauf le Père, même pas les fils de l'homme. Mais c'est pas qu'il ne le savait pas, en tant que fils de l'homme, il n'avait pas la possibilité de le dire. Parce qu'encore une fois, il y a l'humanité et il y a la divinité de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus, qui est Dieu, il est descendu ici-bas, il a laissé de côté tout ce qui concernait la divinité. Pas tout, mais c'est surtout sa gloire. Il est venu ici pour accomplir la volonté de Dieu. J'ai fait ce que le Père m'a dit de faire. Donc, il était complètement soumis à la volonté du Père. Donc, lorsqu'il va revenir, le Seigneur, on sait qu'il peut venir à tout moment. Mais que va-t-il se passer quand il revient? Voilà encore une... une chose que beaucoup, ils essayent de découvrir, entre guillemets, ils essayent de découvrir. Mais si seulement ils lisaient la parole de Dieu, toutes ces choses-là, Dieu, il nous les révèle. On a juste à étudier la parole. Et ce qui va se passer, le Seigneur, il nous le révèle. Si on regroupe toutes les prophéties, je les ai regroupées, et je vais vous lire ce qui va arriver, hein, lorsque cette période-là, il va arriver. Premièrement, il nous est dit que l'ordre de ces événements, hein, je vous donne l'ordre. Premièrement, l'Église, il va être enlevé. Voilà, ça c'est la première chose de l'Église. Ensuite, pendant que l'Église, avant l'enlèvement, c'est la résurrection des chrétiens. Et ensuite, l'Église, elle est enlevée. Ensuite, il y a le tribunal de Christ. Lorsque les chrétiens, ils sont dans le ciel, il va y avoir le tribunal de Christ. Ce n'est pas un tribunal de condamnation, mais c'est un tribunal de rendre compte des œuvres que nous avons faites ici-bas, sur cette terre. Le Seigneur, il a parlé plusieurs fois, hein, la parabole des talents. Hein. Voilà, le Seigneur, il nous donne des choses à faire, je l'ai dit dimanche aussi, dans la prédication, il nous donne des choses à faire, et c'est à nous de les accomplir. Si nous ne les faisons pas, il n'y aura pas des récompenses et le Seigneur, il va nous demander compte. Pourquoi, Aldo, tu n'as pas fait cela? Voilà, j'avais en réserve pour toi une bénédiction, mais j'ai parlé avec Roland et Roland, il l'a compris et la bénédiction qui était pour toi, elle est pour Roland. Voilà, on se prive en n'accomplissant pas la volonté de Dieu, on se prive. Et toutes ces choses-là, ils vont se révéler au tribunal de Christ. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que dans l'Apocalypse, hein, si vous lisez bien l'Apocalypse, hein, il parle de ceux qui sont au ciel et ceux qui sont en bas. Alors, pendant que les chrétiens ils sont au ciel, il y a le tribunal de Christ. Après le tribunal, Dieu, Jésus, il va présenter son Église au Père, hein, pur, irréprochable, sans tâche. Et ensuite, une fois qu'il a fait cette présentation, il y a les noces de l'agneau. Hein, ces noces que le Seigneur a préparées. Vous en souvenez la parabole des noces. Hein, hein, ces rois qu'il avait tout préparé, il a envoyé les messagers pour que les invités, hein, les invités c'était les juifs, hein, ils étaient invités au royaume, mais ils ont tous trouvé des excuses. Et alors le Seigneur a dit, allez partout et ramenez. Et avant de rentrer, vous leur donnerez des habits, des habits. Hein? Et lorsque le roi il est venu, il a vu quelqu'un qui n'avait pas cet habit et il a dit, chasse-les. Hein? Voilà, donc, là-haut, tribunal de Christ, noces de l'agneau, ici-bas, parce que l'Église est enlevée, tout de suite après l'enlèvement, il y a cette période qu'on appelle la tribulation, les sept années de Daniel. C'est-à-dire, ces sept années sont partagées en deux. Il y a trois ans et demi pendant lesquels l'Antichrist, il va arriver à faire ce que personne d'autre a fait. C'est-à-dire qu'il va réunir les chrétiens, les musulmans, tous les autres croyants, il va les mettre ensemble. Et imaginez-vous même que pendant son règne, pendant ces trois ans et demi, il va arriver à construire le temple. Les temples. Et vous savez où est-ce qu'il est situé, les temples, hein? C'est à la mosquée d'Omar. C'est là que les peuples musulmans, ils le tiennent pour quelque chose d'extraordinaire. Il paraît que c'est de là que Mohamed il est parti avec un cheval blanc. Mais dans l'histoire, il n'a jamais mis les pieds à Jérusalem, hein, il paraît. Donc voilà, mais ils ont choisi comme Jérusalem, comme endroit pour l'heure. Alors, règne de l'Antichrist, et pendant ces trois ans et demi, il y a l'alliance. Cet antichrist, il va faire une alliance avec le peuple juif, et pendant 3 ans et demi, le temple va être construit, les sacrifices ils vont être repris, les lévites ils vont être là, tout il va revenir comme à la période de la loi. Quelques-uns ils disent, mais pourquoi les sacrifices ils sont repris, puisque la Bible dit qu'il y a un seul sacrifice. Mais là, ça va être un sacrifice des souvenirs. Si ils sont là, c'est parce que quelqu'un a donné sa vie. C'est un peu ce que nous disons à la Sainte Seine, n'est-ce pas? Si nous sommes là, c'est parce que Christ, il a préparé toutes ces choses-là. Donc, 3 ans et demi, il va y avoir la reconstruction du temple. Et il va y avoir, pendant cette période, il va y avoir l'évangélisation par les 2 témoins. Il y aura 2 témoins choisis parmi les peuples juifs qui vont venir et ils vont évangéliser, ils vont convertir les gens. Vous savez qui c'est, ces deux témoins. Pourquoi est-ce qu'on dit « on sait » ? Parce que c'est des gens dans la Bible qui ne sont pas morts. Et alors, comme la Bible dit que tous doivent mourir, alors, il y en a 2 dans la Bible qui ne sont pas morts. Et c'est Enoch et Élie. Donc, ils reviennent, certaines personnes elles disent que c'est Moïse. Hein? Pourquoi ? Parce que Moïse, on ne sait pas. Ils l'ont cherché, mais ils ne l'ont pas trouvé. Hein? Mais Dieu, il a dit qu'il a enterré. Hein, voilà, voilà. Et ces 2 témoins, hein, par la suite, hein, une fois qu'ils ont évangélisé, ils vont être tués. Donc, la prophétie biblique que tous doivent mourir, il va s'accomplir. Donc, il y aura l'évangélisation et il y aura, à cause de ces 2 témoins, la conversion des 144 000 qui sont des Juifs. Les témoins de Jéhovah, ils disent qu'ils sont tous des témoins de Jéhovah. Hein? Mais la Bible, s'ils lisent bien la parole de Dieu, c'est marqué, ils appartiennent tous aux 12 tribus d'Israël. 12 000 de chaque tribu. La Bible, vous savez, est claire. C'est pas des hommes qui décident, hein, qui c'est qui appartient aux 144 000. La Bible le dit, les 144 000, c'est 12 000 de chaque tribu d'Israël, 12 x 12, 144 000. Hein? Donc voilà, la conversion de la grande tribulation, des 144 000. Ensuite, il y a quoi? Il y a cette alliance que l'Antichrist il avait fait avec le peuple juif, il va la casser. Donc, il va la casser juste au milieu de la 7e semaine. Donc, les 3 ans et demi dans lesquels Esaïe nous le dit, tout le monde dit paix, 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 mais il n'y a pas de paix sans Jésus-Christ. Voilà pourquoi il va casser cette alliance, il va commencer à les persécuter. Hein? Et il va commencer là la grande tribulation. La grande tribulation de Jacob. Et qu'est-ce qu'il va arriver pendant ces 3 ans et demi? Le temple va être profané. Hein? Une fois que ce temple va être profané, ils vont essayer de détruire Jérusalem. Hein? Toutes les nations ils vont se mettre avec l'Antichrist pour détruire Jérusalem. Et c'est là qu'il va y avoir la bataille d'Armageddon. C'est le Seigneur, quand il voit que tous ils sont réunis pour détruire son peuple, Israël, pourquoi? Parce que c'est là qu'il doit instaurer le royaume. Donc, il va intervenir. Alors, Jésus-Christ, il revient avec son Église, et c'est là qu'il y aura bataille. Entre guillemets, bataille. Il n'y a pas de bataille, hein, parce qu'il y a des pierres, du feu qui va tomber du ciel, ils vont être tous exterminés. Et c'est là que le Seigneur il va venir, et après cette bataille d'Armageddon, il va y avoir les jugements des nations. C'est-à-dire que toutes les nations vivantes, ils vont passer sous les jugements de Jésus-Christ. Vous vous en souvenez, c'est ce que le Seigneur il a dit. Hein? Vous m'avez donné à manger, vous m'avez revêti et tout ça, rentrez dans le royaume. Mais quand, Seigneur, t'avons-nous fait? Lorsque vous avez fait ces choses à l'un de mes frères, beaucoup ils disent que c'est l'Église. Mais l'Église n'est pas là. Qui sont les frères de Jésus? C'est les Juifs. C'est les Juifs. Hein? Donc, voilà, ceux qui auront fait du bien au peuple juif, ils rentreront dans le royaume. La bataille d'Armageddon, donc, le retour de Jésus-Christ. Matthieu 25, lorsque le Fils de l'homme, il reviendra dans la gloire. Première fois, il est venu dans l'humilité, mais lorsque le Fils de l'homme reviendra dans la gloire, il va juger les nations. Ensuite, qu'est-ce qui va venir avec le retour de Christ? L'Antichrist, il va être détruit. Il va mourir. Il va être enlevé. Il va y avoir aussi la conversion d'Israël. Vous en souvenez, ces passages. Ils verront celui qu'ils ont crucifié et ils se convertiront. Israël va se convertir et il y aura l'inauguration du millénium, c'est le royaume de Jésus-Christ ici-bas sur terre. Beaucoup ils ne croient pas à ça. Mais si vous regardez la Bible, les évangiles, Jean-Baptiste a prêché ça. Jésus, il a prêché le royaume. Les apôtres, ils ont prêché le royaume. Donc c'est quelque chose qui doit être là. C'est quelque chose dont Jésus, le Fils de l'homme, a le droit de régner. Pourquoi? Parce que c'est le Messie. Voilà pourquoi c'est quelque chose de... Donc il va y avoir le règne ici-bas, sur terre. Alors oui, il y aura la paix. Il y aura la paix. Après ces 1000 ans, qu'est-ce qui va arriver? Parce que Satan, il est enchaîné. Après ces 1000 ans, Satan, il va être délivré. Et lorsqu'il est délivré, il va convaincre et réunir encore une fois tous les rois de la terre, mais surtout Gog et Magog. Hein? Et c'est là qu'ils vont s'unir pour encore une fois détruire le royaume de Dieu Israël. Et c'est là que encore une fois il va y avoir la bataille de Gog et Magog. Ils vont être défaits. Satan, il va être jeté dans les temps des feux. Hein? Pour cette bataille, encore une fois, hein, le feu il va descendre du ciel. Hein. On appelle ça bataille, mais il n'y a pas de bataille. Hein. Car avec Christ, avec Jésus, avec Dieu, il n'y a pas de bataille. L'homme, il n'a aucune chance. Hein. Voilà pourquoi c'est très important. Donc la destruction, Satan, il va être enlevé, il va être mis dans les temps des feux. Il va y avoir des nouveaux cieux et des nouvelles terres. Ensuite, il va y avoir les grands trônes blancs. C'est quoi les grands trônes blancs? Pas comme certains ils disent, les derniers jugements. Non, c'est pas ça. Les grands trônes blancs, c'est le jugement de tous ceux qui ne sont pas sauvés. C'est le jugement de tous ceux qui... Mais qu'est-ce qu'on va juger quelqu'un qui déjà est jugé parce qu'il n'est pas sauvé? Mais c'est là, encore une fois, ils vont être jugés leurs œuvres. Comme les chrétiens au tribunal de Christ, hein, ils ont reçu des récompenses au grand trône blanc, les perdus, leurs œuvres, ils seront jugés et ils recevront des peines éternelles. C'est-à-dire que celui qui a beaucoup péché, il recevra beaucoup de peines. Hein? Celui qui a juste dit au Seigneur, bon, je ne vais pas t'accepter, il ne sera pas sauvé, il sera dans l'enfer. Voilà, on appelle ça les peines éternelles. Et ça, c'est au grand trône blanc qu'il va arriver. Voilà, et donc il va y avoir l'éternité. Voilà le cheminement de tout ce que Dieu a en préparation, les plans de Dieu, les conseils de Dieu. Et c'est ça que nous devons connaître pour que nous puissions l'expliquer à tous ceux qui encore ne connaissent pas. Et encore une fois, nous serons enlevés et nous serons transformés, parce qu'on est en train de parler de la résurrection et de l'enlèvement. Hein. Et la finalité de cette transformation des chrétiens, c'est quoi? On trouve dans cette finalité, on trouve trois finalités de cette métamorphose. Hein. Premièrement, celle de l'incorruptibilité et de l'immortalité. On trouve ça dans verset 53. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Le travail de Dieu, comme on dit, c'est le business de Dieu, c'est quoi? C'est de remettre l'homme à la place où il a mis premièrement, c'est-à-dire dans cette communion avec lui. L'homme, dans le jardin d'Éden, s'était séparé de Dieu, mais Dieu le poursuit et il conçoit ses plans de sauvetage. Au lieu de le juger, il prépare un plan de sauvetage et il envoie même son fils, son seul et unique fils, pour qu'il puisse accomplir ce sacrifice et sauver l'humanité avec le pardon des péchés. Et il y a une dernière étape qui est l'actualisation de ce plan de Dieu. Et c'est quoi? C'est que lorsque Dieu, il va toucher le corps humain qui est pourri, qui est mort, il le touche et c'est alors qu'il va revêtir l'incorruptibilité. Nous lisons ça aussi dans, où est-ce qu'il est le verset? Dans Philippiens 3, il dit Christ, 3:21, Christ transformera les corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par les pouvoirs qu'il a d'assujettir toutes choses. C'est ça le Dieu que nous servons. C'est ça le Dieu que nous louons. Il a tout pouvoir d'assujettir toutes choses. Et c'est ça que nous devons manifester, c'est en ça que nous devons manifester notre confiance inouïe en Dieu. Et qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver la manifestation complète sur la mort. Hein, la mort ne sera plus parce que le corps a revêtu l'incorruptibilité et l'immortalité. Et on trouve ça dans les versets 54 et 55. Il dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Voilà. Et nous savons que le dernier ennemi qui va être défait, c'est la mort. Et justement, ici, il dit, ô mort, où est ta victoire? Hein? Et c'est là que la mort n'existera plus, parce que nous aurons cette immortalité. Mais cette immortalité, nous la recevons pour les corps. Hein? Il ne mourra plus. Et donc, ça sera l'immortalité. Parce que personne ne possède l'immortalité, sauf Dieu. Mais à la résurrection, il nous donnera cette immortalité pour les corps qui ne mourra plus. Il sera éternellement uni à l'esprit qui déjà il était parti dans le ciel. Et c'est cela que et Paul dit, où est ton aiguillon? Où est ton... La mort n'existera plus. Elle ne sera pas possible que lorsque nous serons avec Dieu et seulement alors. On comprend Paul pourquoi il disait qu'il préférait être auprès de Dieu et pas rester ici-bas sur cette terre. Mais oui, on comprend pourquoi. Parce que il serait revêtu de l'immortalité dans la suite. Voilà, il serait auprès du Seigneur. Et à partir de ce moment-là, nous le serons aussi. Hein? Et Pierre évoque le départ du corps aussi. Il évoque cela, Pierre, dans 2 Pierre 1, 12 et 14. Il dit, « Il engloutit la mort pour toujours. » Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Et Jésus, il nous dit de racheter, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection, dans Luc chapitre 20, verset 36. L'aiguillon, il dit, l'aiguillon, où est ton aiguillon? Vous savez, l'aiguillon, c'est quoi? C'est un bâton pointu, hein, dont les bergers de gros bétail se servaient pour maintenir les vaches ou les bêtes dans la bonne direction. Lorsqu'ils déviaient avec cet aiguillon, il donnait un coup, alors il se remettait sur le droit chemin. Si une vache tournait à droite, une pique, elle était ramenée sur le chemin, et vice-versa. La mort est conduite par l'aiguillon. C'est quoi l'aiguillon qui conduit la mort? C'est le péché. C'est le péché. Et lorsque nous serons près du Seigneur, il n'y a plus de péché. Voilà pourquoi il dit, l'aiguillon, où est ton aiguillon mort? À cause du péché, tu faisais mourir tout le monde. Mais maintenant, c'est terminé. Où est ton aiguillon? Et donc, il nous montre par la suite, Paul, dans le verset 56-57, la manifestation de la victoire complète sur le péché. Et nous lisons, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Malgré mes grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Son nom, c'est le péché, l'aiguillon. C'est le péché, hein, l'aiguillon. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi. C'est pas par la loi de Dieu, à travers la loi. Pourquoi? Parce qu'en regardant la loi, on voit notre péché. Voilà pourquoi la loi, il a été donnée pour nous montrer que nous sommes des pécheurs. Et c'est à ça, c'est lorsque cette mort, il sera terminée, alors c'est là que la victoire, il sera complète. Voilà pourquoi Paul, à la fin de ce verset, il leur parle encore avec une certaine tendresse. Il leur parle avec une certaine tendresse. Et on voit, hein, au verset 58, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ainsi, je vous ai dit toutes ces choses-là, et en sachant toutes ces choses-là, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Nous en sommes à la chose la centrale, hein, de merveilleux plans de Dieu, c'est la résurrection. Et tous ces trésors, nous devons nous devons les garder au plus profond de notre cœur et nous dire et suivre l'enseignement que Paul, il nous dit, soyez fermes. Il nous dit trois choses ici. Il fait trois remarques dans ce verset. Premièrement, il dit, soyez fermes et inébranlables. Hein? Ça veut dire, oui, ça veut dire que, voilà, on va voir, on va terminer avec ces trois remarques. C'est presque terminé. Hein? Alors, comme on fait d'habitude, on coupe, hein, 5, 10 secondes, hein? On est au dernier verset. Hein? Et c'est là que Paul, il parle avec une tendresse. Hein? Il leur a fait des reproches dans tous ses chapitres et dans sa lettre, mais là, il revient avec une tendresse. Voilà ce qu'il dit au 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Et voilà, ici, Paul, il fait trois remarques pour chacun de nous. Et il dit, premièrement, il dit, soyez fermes et inébranlables. Le premier mot est dérivé du verbe se poser. Se poser et ne plus bouger. Hein? C'est rester ferme, inébranlable. Pourquoi nous devons et nous pouvons rester fermes? Parce que nous avons avec nous les armes de Dieu. Rien ne doit nous faire peur. Voilà pourquoi Paul lui dit, soyez fermes et inébranlables. Et vous savez, hein, c'est triste de voir des chrétiens hein, qui ne vivent pas la joie de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ne restent pas dans l'endroit où ils sont, c'est-à-dire fermes, inébranlables, c'est posé sans bouger, sans bouger. Et c'est ça que Paul nous dit. La deuxième remarque, c'est progresser toujours. Vous voyez là, il dit restez ferme, inébranlable, posé où vous êtes, mais il faut progresser, progresser toujours. Vous savez, le mot progresser, c'est différent du mot stationner. C'est-à-dire qu'il faut combien entre nous. On ne va pas revivre les choses qu'on a déjà passées, mais il faut avancer. Notre vie, c'est la sanctification. C'est quoi la sanctification? C'est un processus. Nous allons rejoindre la sanctification complète lorsque nous serons avec le Seigneur. Mais ici, il nous dit, soyez inébranlables, soyez fermes, mais progressez toujours. Pourquoi? Parce que nous devons gagner le terrain de l'Évangile. Nous devons l'annoncer. Comme je dis toujours, hein, on doit être un peu comme les chiens. Vous savez, les chiens, ils délimitent leur territoire. Hein. À chaque endroit qu'ils passent, ils lèvent sa petite patte et voilà, et ils jettent leur parfum. Hein. Voilà, nous c'est pareil, on doit avancer, progresser. Pourquoi? Parce que l'Évangile doit progresser. Et ensuite, la troisième remarque, c'est sachant que votre travail ne sera pas vain. Dieu il se réjouit de bénir nos efforts. Il veut que nous en faisons des efforts. Et il se réjouit lorsqu'il voit ses enfants accomplir des efforts. Car la vie chrétienne, elle est faite d'efforts. La vie chrétienne, sans rien, sans tribulation et sans rien, ça n'existe pas. Le Seigneur, il a dit, si vous êtes mes disciples, vous serez persécutés comme moi j'étais persécuté. Mais faisons des efforts. Il faut progresser à rester ferme, inébranlable, malgré qu'il y ait tout autour de nous ces enseignements qui détournent tant de chrétiens. Qui les détourne. Et dans le verset d'Ésaïe, il y a un verset qui dit, même s'ils sont, comment dire, s'ils sont sincères, ils sont perdus. Parce que ce n'est pas une question de sincérité, c'est une question de foi. C'est une question de persévérance dans ce que Dieu dit et il affirme dans la parole. Et vous savez, si on veut avancer, on peut le faire qu'avec l'aide de Dieu. Car le Seigneur, on le répète toujours ce verset, hein, sans moi vous ne pouvez rien faire. Si nous ne restons pas attachés au Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Même pas témoigner, même pas évangéliser. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit qui nous pousse, qui nous dit vas-y, parle, parle. Comme il disait à Élie, qu'est-ce que tu fais là Élie? Qu'est-ce que tu fais? Va! Il avait peur de sa vie, il avait peur pour le peuple d'Israël. Et Dieu, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, pars et va oindre comme un roi Jéhu là, pour lui dire qu'il y a de l'espérance pour le peuple de Dieu. Il ne faut pas se conformer à ce que nous pouvons ressentir. Dieu, il a son plan et ses plans, il va arriver à les accomplir. Car rien, il peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Et pour conclure, il y a cette bénédiction hein, qui va suivre ces trois remarques qui se trouvent dans 2 Pierre 3:18. Il dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Toutes ces remarques, ils nous sont utiles pour que nous puissions croître. Pas croître en stature, mais dans la connaissance de Jésus-Christ. C'est ça qui compte le plus, dans la connaissance de la parole de Dieu. Car si on ne connaît pas la parole, comment voulez-vous témoigner? Comment voulez-vous évangéliser? Comment voulons-nous expliquer aux autres ce que Dieu est, ce que Dieu a fait et ce que Dieu fera? Si on ne le connaît pas nous-mêmes. Donc voilà pourquoi elle dit de croître dans la grâce. Parce que c'est Dieu qui, encore une fois, rien vient de nous. Hein. C'est toujours dans la grâce. Et si nous restons dans cette grâce, Dieu, il va nous donner cette connaissance. Et cette connaissance, il va nous servir pour le servir encore plus et davantage. Voilà pourquoi, et si nous faisons ces choses-là, comme il dit, à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. C'est là qu'il conclut, et j'ai conclu aussi avec Amen. Voilà, hein, on a vu tout ce qui se passe dans la vie d'un chrétien, et nous avons vu la conclusion de Paul, c'est quoi? Il nous dit, avec toute cette bénédiction, toutes ces promesses que nous avons, que vous avez, que Dieu a préparées pour vous, soyons fermes et inébranlables, hein, progressons toujours. Et sachant que notre travail, il n'est pas vain. Nous avons un avenir devant nous. Alors, ne le ratons pas. Que le Seigneur nous aide à maintenir cette voie. Roland, tu veux terminer?